Morning Edition from NPR News.
Même si King San Peter House.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous sommes dans la tête de Vladimir Poutine, qui se montre indispensable ces deux derniers jours. Il le fait depuis Sochi. Poutine en faiseur de paix pour la Syrie. Poutine en champion de l'Afrique pour un sommet dans lequel il met beaucoup de clinquants. On démêle ça dans un instant. Le bruit du monde est au Japon ce soir dans la centrale de Fukushima que Karine Nishimura a pu visiter une fois de plus. Et je vous conseille vraiment d'écouter ce que ça veut dire, le bruit du monde. Quand il passe sous les radars, il nous dit grâce à Amélie Perrier que la Thaïlande veut abandonner le glyphosate intégralement ou que la Guinée-Conakry essaye de faire taire ses opposants. 18h50, le cinéma en VO et Eva Bétan au Chili ce soir. Un film fait bien sûr bien avant les manifestations de cette semaine, mais la résonance est intéressante avec l'actualité, vous le verrez. 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. En Chine, Jean-Marc, qui devant les soubresauts continue de ces derniers jours partout sur le globe, se dit que la Chine doit bien rigoler sous cap. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Julien Nocetti.
Bonsoir.
Spécialiste de la Russie, Monsieur Nocetti, chercheur associé à l'IFRI. Vous êtes en duplex depuis France Bleu Armorique. On remercie au passage nos amis. Je le disais tout à l'heure, Julien Nocetti, heureux comme un Vladimir Poutine, au fond, sur la scène internationale aujourd'hui. Il était donc au centre des discussions syriennes hier. Il est en pleine opération africaine aujourd'hui. On verra ce qu'il y a derrière tout ça. Est-ce qu'il y a de réel aussi en forme d'influence? Mais pour ce qui est de la mise en scène, pour ce qui est de l'image, pour ce qui est de l'occupation de terrain, pour le coup, là, son pari est largement gagné, largement rempli, non ?
Oui, effectivement, son pari en termes d'image, de diplomatie publique est assez réussi. Il occupe l'espace médiatique international avec des actions qui restent au fond assez, assez classiques. Mm-hmm. Cela étant, en Afrique, il y a quand même un vrai couplage entre une logique de diplomatie économique qui est là aussi assez classique depuis quelques années en Russie, mais aussi avec une vraie dimension sécuritaire via des efforts de médiation dans diverses parties du continent africain, que ce soit entre l'Égypte et l'Éthiopie, sur la problématique libyenne, etc. C'est quelque chose d'assez nouveau.
On va y venir dans un instant, effectivement, en Afrique, ce que ça veut dire, cet énorme sommet qu'il a mis en place aujourd'hui et demain. Je voudrais juste en un mot, avant Monsieur Nocetti, qu'on n'oublie pas ce qui s'est tout de même passé hier. Est-ce qu'on se dit, on enfonce presque une porte ouverte désormais, mais quand on dit que ça y est, le grand gagnant du chaos syrien, c'est Vladimir Poutine. Une fois de plus hier, il en a fait la démonstration, non ?
Ben, si vous voulez, si on replace la crise syrienne dans son contexte un peu plus ancien, avec le tournant 2013, effectivement, si vous voyez la séquence 2013 et 2019, avec 2013 pour rappel, c'est la négociation russo-américaine sur les armes chimiques syriennes, où Poutine a fait son grand retour sur le dossier syrien, et là 2019, où par le double effet d'un retrait militaire américain dans le reste de la Syrie, et de cette négociation bilatérale russo-turque, on assiste à un affichage diplomatique très, 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 très fort, évidemment, de la part de la Russie, sans trop d'efforts, au fond, de sa part.
J'allais dire, au fond, il a pas fait grand-chose. Alors, bien sûr, il y a les troupes qui sont d'ailleurs en train de s'assurer que les Kurdes sont bien en train de quitter la zone frontière conformément à l'accord. On verra bien ce que ça donnera. Mais on a l'impression que cette assise d'influence qui était déjà bien présente, elle s'est faite à moindre frais, finalement.
Alors effectivement, et ça, ce qui est tout à fait notable dans cette posture russe, c'est qu'elle a assisté en spectatrice à l'affaiblissement des solidarités occidentales, au fond, puisqu'à la fois les Américains, par leur retrait et par la diplomatie du tweet et très émotionnelle du président Trump, et par aussi les divisions au sein de l'OTAN et entre pays européens, Poutine a simplement eu à appuyer là où ça fait mal pour les occidentaux, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui joue en sa faveur et plus largement, il a une grande expérience des relations internationales, ce qui fait qu'il connaît très bien les réactions ou la non-réaction de ses partenaires occidentaux.
On a l'impression qu'il a compris le billard à deux bandes que Trump, par exemple, lui, n'a pas compris. Il laisse faire au moment où, sur les États-Unis, bien sûr, qui donne le feu vert au fond à la Turquie, mais lui laisse faire, il sait très bien qu'il en tirera bénéfice. Donc on a l'impression qu'il a compris quel était le billard à deux bandes et ce qui allait se passer derrière, ce qui n'était pas le cas du président américain, pour le coup, sur cette opération-là.
Ce qui n'était pas le cas, effectivement. Et dans cette affaire, le grand perdant, c'est évidemment les États-Unis, qui évidemment si vous voulez, la Russie revient en position de force grâce à Donald Trump, ce qui fait dire aussi beaucoup à Washington que le président Trump agit uniquement en faveur des intérêts de politique étrangère de la Russie, mais sur le terrain, les États-Unis sont effectivement menacés de disparition durable.
Juste en un mot, Julien Nocetti, avant d'aller sur l'autre volet, de partir en Afrique, je suis assez curieuse quand même de cette relation bizarre au fond entre la Turquie et la Russie désormais, cette espèce de relation de circonstance là. Il y a eu des bras de fer réguliers, il y a des oppositions dans ceux qu'ils soutiennent, mais au fond là, ils sont ensemble, probablement tournés contre nous d'ailleurs. L'Ouest, c'est ce que vous disiez à l'instant. Qu'est-ce qu'elle va devenir cette relation là? Est-ce qu'elle est purement circonstancielle? Est-ce qu'elle est faite pour durer?
Alors elle est faite pour durer, parce que déjà vous avez deux partenaires, la Russie et la Turquie, qui se connaissent depuis fort longtemps et qui ont une histoire très conflictuelle depuis plusieurs siècles. Mais quand vous resituez 4 ans auparavant, avec l'avion de chasse russe abattu par la Turquie, on part de très loin, si vous voulez. Et en l'espace de 4 ans, le chemin parcouru est très très notable. Et ce qui est frappant aussi dans cette rencontre entre Poutine et Erdogan, c'est que les deux présidents se sont rencontrés 8 fois en 2019, ce qui est colossal, et 7 fois l'année dernière. Donc c'est une relation très huilée, très rodée. Ce sont deux chefs d'État qui se connaissent parfaitement et qui ont beaucoup de points communs aussi, à la fois en politique étrangère, mais aussi en matière de gouvernance interne, on va dire, et de personnalité.
De gouvernance, effectivement, ce sont deux personnalités, vous le dites, qui se ressemblent. Donc j'allais presque dire, dans ce coin-là du monde, Vladimir Poutine, une fois que ses ennemis, ses opposants en tout cas, sont éliminés, relativement seul au monde, on va y aller vers ce fameux sommet Russe-Afrique, presque 50 chefs d'État, donc il y a évidemment une grosse part de com là-dedans. On entend d'ailleurs des experts disent, notamment chez vous à l'IFRI, que ce retour de la Russie en Afrique est finalement beaucoup moins spectaculaire que la mise en scène qui va avec pour le montrer. Est-ce que c'est aussi ce que vous diriez ou pas?
Alors j'irais dans ce sens effectivement, parce que au fond vous n'avez pas de politique africaine de la Russie. Vous avez une habileté à tirer parti de situations qui peuvent être favorables en fonction des enjeux, un retrait américain, une faiblesse identifiée de la part de l'Occident, des conflits interethniques ou entre États qui peuvent donner matière à exploitation. Et la Russie s'est réimplantée il y a quelques années à la faveur de notamment du conflit en République centrafricaine, ce qui a été remarqué évidemment à Paris. Mais moi je dirais plus largement, le tournant a été plutôt l'Égypte en 2013, avec l'arrivée au pouvoir du maréchal Sissi, qui a très rapidement noué une relation très très proche avec la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très visible dans cette diplomatie africaine de la Russie, parce que l'Égypte est impliquée dans d'autres dossiers de la région, notamment avec l'Éthiopie, au sujet du Nil, au Soudan par ailleurs. Moscou, il y a des intérêts économiques aussi très très importants, beaucoup plus importants du moins qu'avec le reste de la région, des intérêts économiques qui restent assez modestes si on les compare avec les intérêts chinois par exemple, ou français ou américains. Mais au fond, ce retour s'est aussi fait par des canaux plus traditionnels. C'est celui d'abord des ventes d'armes, où les efforts russes ont consisté à réactiver des anciens réseaux pour essayer de...
Il paraît qu'à Sochi, là par exemple, les chefs d'État africains essayent des armes, etc. C'est surtout ce qu'on voit en fait, et c'est aussi surtout ce que Poutine visiblement a voulu montrer.
C'est ce qu'il a voulu montrer, et là un point intéressant et que peu d'observateurs ont remarqué, c'est que quand il y a eu une visite en Afrique du Sud, les Russes ont envoyé des bombardiers Tu-160 se posent en Afrique du Sud, ce qui est un signal aussi très très fort à la fois d'affichage diplomatique, commercial, mais aussi stratégique, car ce sont des appareils très sophistiqués et qui envoient aussi un message sécuritaire très très fort. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau là aussi pour la Russie dans cette partie du monde.
Mais du coup, est-ce qu'on dit qu'on ne parle pas d'économie, parce que j'allais dire le terrain est pris en fait? Vous parliez des Chinois, des Américains, des Européens, des Français évidemment. Est-ce qu'on parle très peu d'économie finalement, donc parce que le terrain est pris? Est-ce qu'on ne parle que de militaire et éventuellement, vous l'avez un peu évoqué, de rapprochement politique? Au fond, qu'est-ce qu'elle a à offrir, la Russie, que les autres ne peuvent pas offrir?
Alors, je réponds au premier volet de votre question sur le volet économique. Alors en fait, le forum de Sochi a été précédé d'un forum d'affaires russo-africain, donc évidemment qui est passé beaucoup plus au second plan que la réception des chefs d'État africains. Mais là, la Russie essaye de tirer parti là aussi de d'équipements et de services qu'elle peut proposer. Mais encore une fois, en Afrique subsaharienne, ce sont des efforts qui restent assez modestes et qui sont parfois désorganisés en fonction là aussi d'intérêts de différents clans aussi au pouvoir.
Mais c'est quoi? C'est de l'énergie quand ils vont le chercher quand même? C'est des matières premières?
C'est quoi? Ça a longtemps été matière première, exploitation de gisements d'uranium, par exemple, de différents minerais, le bauxite, le cuivre, etc. Et c'est de plus en plus les ventes d'armes et puis et puis des contrats énergétiques classiques, hein, exploitation gazière et pétrolière en particulier, notamment vis-à-vis du Nigeria.
Mais donc vous l'avez un petit peu évoqué, Libé s'amuse ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec un titre autour de la Russafrique. Est-ce qu'il y a une espèce de fil conducteur, un fil rouge qu'on pourrait suivre, une espèce de Russafrique, donc de politique africaine russe, ou pour l'instant est-ce difficilement lisible?
Alors, à mon sens, ça reste encore assez difficilement lisible. Il y a d'une part une tentative de réactiver des anciens réseaux. Le problème, c'est que ces réseaux russes sont assez fragiles au fond, parce que les appuis traditionnels de la Russie dans le continent, président Bouteflika en Algérie, ou l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, ou Omar al-Bashir au Soudan, ont tous été soit chassés du pouvoir, ou soit on est passé à autre chose dans ces pays. Donc ça fragilise au fond les positions de la Russie, qui n'ont pas forcément su s'adresser à la société civile. C'est là aussi une constante de cette petite crue, c'est de s'adresser au régime en place, au chef d'État, etc., et de ne pas voir ce qui se passe ailleurs aussi au sein de ces pays.
Mais justement, et est-ce que c'est un avantage au fond pour certains présidents africains? Est-ce qu'il y a moins d'exigences des Russes, ou pas d'exigences du tout, vis-à-vis d'une, j'allais dire, d'une bonne gouvernance, en fait, de la part de ces pays, du côté des Russes, ou pas du tout?
Alors exactement, en fait, la politique russe n'est conditionnée à aucun marchandage en termes de démocratisation ou de respect de liberté d'expression, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui les fait se rapprocher de la Chine, évidemment. Les Chinois n'ont également aucune exigence en la matière. Mais en comparaison des Occidentaux, oui, là, c'est une différence majeure, évidemment, entre nos politiques réciproques vis-à-vis de l'Afrique.
C'est un argument qui porte aujourd'hui, parce que vous le disiez vous-même, effectivement, les contacts russes ont vieilli aujourd'hui, et l'Afrique est en train de changer. Vous avez cité l'Éthiopie tout à l'heure. S'il y a bien un pays en ce moment en Afrique qui montre que des choses sont capables de bouger, c'est peut-être celui-là. Donc est-ce que c'est toujours un argument qui fonctionne au fond, celui-là, ou pas?
Alors c'est un argument qui fonctionne, mais oui, mais d'une autre manière, si vous voulez, cette politique russe, elle reste basée sur des vieilles méthodes. Hein, au fond, il y a quand même encore une empreinte de l'implication de l'ancien KGB, avec des accords en matière de partage de renseignements entre services. Ça passe aussi par l'inclusion des sociétés militaires privées russes sur le continent. Donc on reste quand même assez dans une logique de hard power, au fond, hein, de montrer la puissance russe, qui passe avant tout par ces canaux sécuritaires et militaires.
Et c'est ça peut-être la différence aussi avec la Chine que vous citiez. La Chine fait beaucoup de soft power aussi avec l'Afrique, et c'est vous qui l'avez prononcé, la Russie, on a l'impression qu'elle ne s'embarrasse pas de ça, en fait. Elle va directement vers le hard power, donc vers des choses, j'allais dire plus essentielles, j'y mets des guillemets, mais en tout cas peut-être plus franc du collier, on va le dire comme ça.
Alors, exactement. Et ce qui différencie ces politiques chinoises et russes vis-à-vis de l'Afrique, c'est que les Chinois ont très tôt, compris l'intérêt du volet culturel et linguistique, avec l'implantation d'instituts Confucius, par exemple, aux quatre coins du continent. Et ce que les Russes ont tardé à faire, il y a un capital russe qui aurait pu être exploité. Ça a été à l'époque soviétique la formation de dizaines de milliers d'étudiants africains dans les universités à l'époque soviétique, puis russe. Mais c'est un levier d'influence potentiel qui a été un peu négligé du fait du désintérêt de la Russie pour le continent dans la période post-soviétique et puis pendant une bonne partie des années 2000.
Le président russe, Julian Osseti, dit là que donc ils se rencontrent et puis ils se verront désormais régulièrement. Les investissements russes seront multipliés même par 5 dans les années à venir. Est-ce que tout cela, ce sont des mots pour l'instant, ou est-ce que oui, c'est cependant ce vers quoi on s'achemine, c'est-à-dire une vraie multiplication des intérêts, de l'argent, des chiffres russes en Afrique?
Alors je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la volonté des différents pays et puissances africains de se tourner vers d'autres partenaires, et la Russie en fait partie. Après, il y a quand même une vraie asymétrie aujourd'hui entre la présence économique, notamment de la Chine en Afrique, et celle de la Russie, et je vois assez mal comment ça pourrait être comblé à court ou moyen terme.
Il y a un retard pas rattrapable, en gros, ce que vous dites, c'est que ce retard n'est de toute façon plus rattrapable.
Il y a un retard très difficilement rattrapable, parce que la Russie, très schématiquement, a très peu à offrir en dehors de ventes d'armes et de livraisons énergétiques, pour caricaturer un petit peu.
Pour caricaturer encore plus derrière vous, qu'est-ce qui reste à prendre aussi? Moi, j'ai l'impression que les terrains ont tous été de toute façon mangés, si je puis dire, par les Chinois, par les Européens, par les Américains dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste sur le plan économique,
oui. Après, il reste forcément des marges à trouver sur le plan de l'armement, de la formation militaire.
Toujours.
Est-ce que la Russie cherche à faire pas seulement en Afrique, mais au Moyen-Orient ou en Asie Sud-Est, où les Russes cherchent à s'implanter de façon plus solide sur ces plans.
Julien Ossetti, est-ce que la Russie cherche aussi un débouché pour essayer de contourner les embargos qui rendent sa croissance difficile aujourd'hui? Est-ce que c'est un chemin pour les Russes ou pas du tout?
Alors c'est un chemin, évidemment. Ça, c'est un argument très très convaincant, parce que depuis 2014, incursion militaire en Ukraine et contexte de sanctions occidentales contre la Russie cherche à trouver d'autres débouchés vers d'autres continents qui ne les exposent pas à des sanctions occidentales. Et l'Afrique en fait partie.
Et peut-être aussi parce que sur le plan intérieur, Vladimir Poutine n'est pas aussi reluisant, on va dire, qu'il l'est peut-être sur la scène internationale, en tout cas aux yeux des Russes. Est-ce qu'il n'y a pas urgence aussi à trouver d'autres débouchés, parce que la scène intérieure commence doucement à montrer quelques signes d'agacement, on va dire?
Il y a une dimension intérieure qui n'est pas à négliger, qui n'est pas surestimée non plus, mais qui n'est pas à négliger. Et ça, cet effort tous azimuts, je dirais, pour reprendre l'ancienne expression de Primakov, en direction de divers continents. Hein. Donc c'est pas seulement l'Afrique, mais c'est aussi le Moyen-Orient, c'est l'Asie du Sud-Est, c'est l'Amérique latine. C'est plutôt vu favorablement en interne en Russie, parce que ça rappelle aussi l'activité diplomatique de ce que fut l'Union soviétique avec l'aide aux pays du tiers-monde, hein, comme on les appelait à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui rappelle aussi, enfin qui évoque très bien la puissance russe. Donc ça, c'est perçu de manière tout à fait positive.
Merci beaucoup, Monsieur Ossetti, Julien Ossetti, spécialiste de la Russie, chercheur à l'IFRI. Vous pouvez respirer, parce que je sais que vous avez du mal à arriver jusqu'à chez nos amis de France Bleu. Vous avez une petite frayeur. On vous remercie vraiment, vraiment.
Merci.
À très bientôt.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
La suite d'un jour dans le monde, c'est le bruit du monde, comme un grand fracas d'ailleurs d'il y a 8 ans. Karine Nishimura a visité Fukushima, la centrale, pour voir où on en est. Et vous allez entendre réellement ce que ça veut dire, le bruit du monde sous les radars. C'est le retour d'Amélie Perrier. Voilà que la Thaïlande ne veut plus de glyphosate du tout.
Oui, elle veut devenir la cuisine du monde, donc pas de pesticides, interdit.
Le cinéma en VO, Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir. Quelquefois, le passé donne quelques clés pour comprendre le présent. Je vous amène au Chili.
Et nous y serons donc dans un instant. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonjour.
Vous avez l'impression que la Chine, tiens, on en parlait à l'instant au sujet de la Russie également, la Chine rit sous cap en ce moment, Jean-Marc.
Mais oui, Xi Jinping doit boire du petit lait en voyant les tensions sociales partout dans le monde.
Allez, les mamas and the papas, figurez-vous, sur France Inter, California Dreaming. Vous l'aurez dans la tête toute la journée, tant pis pour vous.
Thank you.
Le bruit du monde ce soir est au Japon. Inutile de vous rappeler le 11 mars 2011, le gigantesque tsunami qui tue plus de 18 500 personnes au Japon, qui engloutit donc une partie de la centrale nucléaire de Fukushima. 150 000 habitants ont dû quitter précipitamment leur logement. 8 ans et demi après, et pour la 4e fois, Karine Nishimura de l'AFP est allée passer une journée dans ce site ravagé où triment des milliers de travailleurs avec un acharnement, et vous allez l'entendre, qui force le respect. Voici ce qu'elle nous ramène, Karine. Voici l'ambiance à l'intérieur de Fukushima Daiichi en compagnie de salariés de la compagnie Tokyo Electric Power.
Là, nous sommes dans le bus qui nous conduit à la centrale Fukushima Daiichi, qui se trouve à quelques 220 km de Tokyo. Donc il faut traverser plusieurs villages. Certains ont vu revenir quelques habitants, mais ce sont apparemment essentiellement des travailleurs qui ont droit à des logements dans ces villes environnantes, et puis à proximité même de la centrale, dans les villes de Futaba et Okuma, eh bien, il est évidemment encore interdit d'habiter.
Avant que vous ne fassiez votre reportage, nous allons mesurer votre radioactivité intérieure, puis nous la comparerons à la sortie pour évaluer quelle quantité d'éléments radioactifs vous avez absorbé à l'intérieur de la centrale durant ce reportage.
Lorsque sur vos dosimètres, les paliers de niveau de radioactivité seront atteints, vous entendrez des bips à 0,2 puis 0,4.
Nous sommes arrivés devant les réacteurs de la centrale de Fukushima. Nous sommes juste devant, avec un ciel bleu magnifique et une mer tout aussi bleue.
Sur le dessus du réacteur numéro 3, vous voyez une sorte de dôme. À l'instar du réacteur numéro 1, le réacteur numéro 3 a subi une explosion d'hydrogène qui a complètement soufflé le bâtiment. Par la suite, nous avons retiré tous les décombres et installé ce toit, tout en prenant bien soin de bloquer les rejets de matière radioactive.
Alors c'est en moins bon état que ce que je pensais. Quand on arrive à l'arrière des bâtiments, en fait, on voit beaucoup d'endroits qui sont laissés à l'abandon, probablement impossible d'y aller compte tenu du niveau de radioactivité. On voit des bouts de murs enfoncés, des bouts de murs arrachés.
Ici, nous recevons des radiations émises par les réacteurs, mais il n'y a pas de particules radioactives dans l'air.
Le premier enjeu dans cette centrale, c'est le démantèlement des réacteurs dont le combustible a fondu. Il y en a pour 40 ans au moins. Nous venons de revêtir la tenue intégrale du travailleur nucléaire, la combinaison, 3 paires de chaussettes, 3 paires de gants, un masque, un casque. Il est difficile de parler, de respirer, il fait très chaud, mais c'est la tenue dans laquelle travaille plusieurs centaines, voire milliers de personnes chaque jour. Le deuxième enjeu, c'est la gestion de l'eau radioactive qui coule partout. Il faut la pomper, la filtrer. Nous sommes à l'intérieur du système de décontamination de l'eau. Il y a ici évidemment beaucoup de travailleurs, de la tuyauterie dans tous les sens, des cuves, des citernes. C'est impressionnant et la radioactivité est évidemment très forte ici puisque les filtres sont remplis d'éléments radioactifs et qu'on brasse ici des quantités impressionnantes d'eau.
C'est là, avec cette machine, que l'on retire les éléments radioactifs. C'est une étape très importante. Attention, on ne peut pas aller là-bas.
La peur qu'on a ici, c'est qu'à un moment donné, il y a un tuyau qui pète et qu'on soit arrosé par de la flotte contaminée. Nous restons simplement 15 minutes, car le niveau de radioactivité est élevé ici.
Où va-t-on ? Par là ?
Là, en plein soleil, je vous avoue que c'est terrible, là. On vient encore de changer de tenue pour la 3e fois. Donc là, on a une combinaison bleue. Elle était blanche au départ. Là, on a un nouveau masque. On a encore des chaussettes. On a encore des nouveaux gants. Une nouvelle capuche, un nouveau bonnet. C'est assez infernal, cette gestion des vêtements, cette gestion des dosimètres. Le troisième enjeu, c'est le stockage de cette eau, une fois décontaminée, avant peut-être de la rejeter en mer.
Les citernes que vous voyez devant vous contiennent chacune 1200 tonnes d'eau. On en remplit une comme cela chaque semaine.
Voilà, c'est fini. On aura passé 7h30 minutes dans la centrale Fukushima Daiichi.
Et on y était. Vraiment formidable reportage. Merci beaucoup Karine Nishimura de l'agence France Presse pour Un jour dans le monde. Merci vraiment. Le bruit du monde, la suite passe sous les radars. Voici Amélie Perrier. Et Amélie, c'est en Guinée-Conakry que nous sommes là, de la prison ferme contre les opposants.
Un tribunal de Conakry vient de condamner les opposants à l'origine des manifestations qui secouent depuis une semaine le pays d'Afrique de l'Ouest au bord de l'Atlantique. Décrit à l'annonce des jugements, un procès inique des magistrats sous l'influence de la présidence, une opération pour intimider la population. Voilà les accusations des protestataires. La Guinée bouillonne depuis que le président Alpha Condé a laissé entendre qu'il allait briguer un troisième mandat. La Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le mois dernier, en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, Alpha Condé a dit devant des partisans qu'il fallait se tenir prêt aux élections, prêt également à un référendum, sous-entendu un référendum pour modifier la loi fondamentale et lui permettre donc une troisième élection à la tête du pays. Réaction immédiate et épidermique de la population.
On ne veut pas un troisième mandat, on ne veut pas une nouvelle constitution, on ne veut pas un nouveau référendum. Donc on est là, on manifeste pour que quand il finit son deuxième mandat, il laisse l'opportunité aux autres aussi de profiter à une nouvelle élection et qu'on ait un nouveau président.
Et depuis, les forces de l'ordre arrêtent par dizaines les manifestants, les condamnations pleuvent, les défenseurs des droits de l'homme dénoncent la répression excessive, les interpellations arbitraires. Malgré tout, les Guinéens continuent de protester, les Guinéennes, aujourd'hui environ 400 femmes vêtues de blanc dans les rues de Conakry. Alpha Condé accuse de son côté les protestataires de semer la pagaille et de tuer eux-mêmes des gens pour ternir l'image d'un pays fragile.
La Thaïlande a décidé hier d'interdire le glyphosate dans tout le pays.
Le glyphosate et deux autres pesticides dangereux, interdit à compter du 1er décembre. Et ce, malgré les protestations des agriculteurs. En fait, la Thaïlande a l'ambition d'être la cuisine du monde. Elle est déjà l'un des plus gros exportateurs de riz et de sucre sur la scène internationale, mais également l'un des plus gros consommateurs de pesticides, des produits dont on ne veut plus dans de plus en plus de pays sur la planète, en Europe notamment. À l'origine de ces marchandises, nous dit ici Gae Supab, qui dirige un organisme de surveillance des produits agricoles, on n'a aucun outil approprié pour contrôler les seuils de pesticides du début à la fin de la chaîne de production. On n'a aucun système opérationnel non plus pour éduquer les gens, pour limiter l'utilisation de ces produits. Alors les contrôles sanitaires ces dernières années sont alarmants, les paysans se rendent malades à force de traiter et de surtraiter leurs parcelles et les étals des marchés sont bourrés de substances toxiques. D'où cette décision du gouvernement, héroïque, se félicite le ministère de la Santé. Irresponsable, répondent les agriculteurs. Le secteur emploie 40% de la population du pays. Les producteurs redoutent en fait l'augmentation de leurs charges. Sans pesticides, il faut plus de main-d'œuvre pour arracher les mauvaises herbes et pourquoi pas d'ailleurs.
La Chine, Amélie, n'en finit plus de fêter son 70e anniversaire.
Trois semaines après, les médias continuent de diffuser les images des cérémonies des 70 ans du régime communiste, et particulièrement celle de ce concert géant sur la place Tiananmen. Et parmi les artisans de ce spectacle hors norme, Zhang Shurong, le chef d'orchestre d'un orchestre format XXL. Il nous dit qu'on a rassemblé 16 orchestres symphoniques venant de partout dans le pays. Cela fait 1028 musiciens au total. Un orchestre symphonique à 1028 instrumentistes et 1400 choristes. Et tout s'est synchronisé parfaitement. Je crois que la performance, dit-il, a dépassé nos attentes. C'était parfait, étourdissant, un symbole de la puissance nationale.
Très bien, très bien. 这是整个一个国家的实力的体现。
Voilà ce que l'on appelle un hymne à son pays ou un très bel exemple de propagande au moment où les Hongkongais jouaient une autre partition, celle de leur autonomie face aux géants chinois.
Voilà, et sur laquelle on reviendra d'ailleurs en creux avec Jean-Marc Four dans un instant. Quel sens de la transition, il n'y a jamais de hasard dans cette émission. Bravo Amélie Ali, Black Puma et Fire sur France Inter. Black Puma et Fire, c'est sur France Inter. Le cinéma en VO et Eva Béton, c'est maintenant.
France Inter. Un jour dans le monde.
Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas.
Eva, il arrive que l'actualité vienne taper sur les choix cinéma qui sont les vôtres. Sort la semaine prochaine un film du cinéaste chilien Patricio Guzmán. Ça s'appelle La Cordillère des Songes, qui ne parle pas évidemment de ce qui se passe depuis plusieurs jours au Chili. Les manifestations, les morts d'ailleurs, 18 au jour d'aujourd'hui. Le réalisateur évoque un passé qui n'est pas si lointain pour les Chiliens, celui de la dictature de Pinochet. Mais le recul sur l'histoire n'est pas si inutile que ça pour tenter de comprendre ce qui se passe justement en ce moment. Ces manifestations qui durent et qui ont commencé, on le rappelle, tellement simplement sur une augmentation de prix de métro.
Alors vous avez entendu l'extrait de la bande-annonce, il y a un côté nostalgique parce que il va dans la cordillère des Andes et en même temps il va sur les traces de son passé. Et je ne sais pas très bien comment, mais l'enchaînement se fait. On en arrive à ce qu'il appelle le séisme qui a marqué nos vies. Il parle de sa génération, il parle de lui, il a été arrêté, il a dû fuir le pays, la dictature de Pinochet, 1973-1990, cette dictature. Entre autres choses qui sont dites, c'est l'ampleur des arrestations par exemple. À un moment donné, ils viennent et ils arrêtent tous les hommes d'un immense bidonville. Et aussi la terreur. On voit des gens qui sont des adultes aujourd'hui et qui disent, enfant, découvrir que ses parents sont terrifiés. Ce film, Patricio Guzmán dit, c'est le reflet d'un passé qui me poursuit. Alors, le passé, finalement, il n'est pas si lointain. C'est quoi? Ça s'est arrêté il y a une trentaine d'années. Il reste des traces insidieuses dans un peuple. Qu'est-ce qui fait que des gens se révoltent, des gens qui se révoltent aujourd'hui, auparavant, ils étaient silencieux? Qu'est-ce que c'est que ce silence? Qu'est-ce que c'est ce que ce peuple habitué à se taire et accepter? C'est ce que j'ai demandé à Patricio Guzmán.
C'est une situation qui vient de loin du passé, parce que toujours il y avait une opinion publique un peu cachée. Il y a les moyens de communication, les journaux, tout ça, mais ils ne parlaient pas de la réalité. Donc il y a une espèce de masse de personnes, classe moyenne ou classe bas, qui sont là, qui voyagent en métro, qui travaillent beaucoup. Les Chiliens sont très travailleurs. Et donc le temps passe et la situation ne change pas. Et toujours c'est le silence. Comme c'est un peuple discipliné, il accepte. Et surtout après le coup d'État, c'est une conduite d'acceptation. Parce que le coup d'État était horrible, Pinochet était horrible. Donc s'il y a une chose à soutenir, c'est la stabilité, la continuité, du calme, la paix. Mais il y a un moment que le désespoir, c'est énorme. Donc, il explose.
Alors, Eva, dans la dictature de Pinochet, on a beaucoup parlé, évidemment, de l'aspect politique des exactions. Évidemment que c'était le cas, on avait raison, mais il y avait aussi autre chose, en fait.
Alors, c'est très intéressant. Il y a un côté économique, finalement, qui a été occulté. À un moment donné, un personnage très important du film, Pablo Sala, c'était un homme qui a filmé toutes les manifestations à la résistance. Il a réussi à ne pas être arrêté, c'est un miracle. Il s'appelle Pablo Sala et il continue à filmer son pays aujourd'hui, ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit une phrase terrible, il dit « Aujourd'hui encore, le coup d'État de Pinochet est vainqueur parce que le modèle économique instauré alors demeure et que les institutions le soutiennent. » Ce modèle économique, c'était ce qu'on avait appelé l'école de Chicago. Et il n'a pas été remis en cause. Patricio Guzmán.
Un groupe de Chiliens sont là-bas, à Chicago, il a étudié bien les choses, et il arrive au Chili, il propose à Pinochet faire cette révolution. C'est l'unique façon d'avancer. Pinochet accepte, et ça commence. Mais ça commence d'une façon dictatorielle. C'est l'imposition totale de ce modèle économique absolu. Ça veut dire que l'unique chose qui est importante au Chili, c'est l'argent. À partir des Chicago Boys, tout le pays a changé. Il n'y a aucun gouvernement qui a fait le contraire. Tous les gouvernements sont la même chose. Ils continuent avec cette économie terrible, libérale, totale. On a perfectionné ce modèle économique. Maintenant, l'économie chilienne, c'est la plus verticale de l'Amérique latine. C'est implacable.
Et en effet, là, on est pile dans l'actualité du moment. Il nous y ramène, Patricio Guzmán. Merci beaucoup, Eva. Ça s'appelle La Cordillère des Songes.
Et ça sort la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers est Jean-Marc Four. Le Chili, on y était à l'instant. La Catalogne, Jean-Marc. Le Liban, la Bolivie, la Grande-Bretagne. Les tensions sociales et politiques sont nombreuses, elles sont simultanées. Et comme toujours, vous imaginez-vous un point de vue, vous examinez un point de vue inattendu, un regard inattendu sur ce sujet, c'est celui de la Chine elle-même confrontée à la contestation à Hong Kong. Et toutes ces tensions font au fond l'affaire du pouvoir chinois. C'est votre monde à l'envers.
La presse chinoise n'y va pas de main morte. Par exemple, le quotidien China Daily, directement lié au pouvoir à Pékin, publie aujourd'hui un éditorial au vitriol sur, je cite, « l'hypocrisie occidentale ». La Chine accuse les pouvoirs et les médias occidentaux de pratiquer le « deux poids, deux mesures » en qualifiant d'un côté les manifestants de Hong Kong de militants de la démocratie et de la liberté et en ayant tendance de l'autre à parler d'émeutiers violents pour décrire les militants radicaux de l'indépendantisme catalan, les Chiliens en colère ou les Gilets jaunes en France. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui était de passage à Paris avant-hier, se plaît d'ailleurs à souligner que les Catalans s'inspirent des méthodes de Hong Kong. Et pour lui, tout ça doit être en gros mis dans le même sac, c'est-à-dire des révoltes à réprimer. D'ailleurs, puisqu'on parle de répression, là aussi la presse chinoise ironise. Elle souligne que les les méthodes de répression sont moins féroces à Hong Kong qu'à Barcelone et surtout au Chili. Déjà 18 morts, vous le rappeliez. Mmh. Et elle affirme qu'en matière d'espionnage via les réseaux sociaux, les États-Unis n'ont rien à envier à la Chine. Dans le South China Morning Post, qui est un journal de Hong Kong pourtant plus distant du pouvoir chinois, un autre éditorialiste ajoute aujourd'hui « Le pouvoir de Hong Kong est faible et timoré, sinon il réprimerait comme l'Espagne le fait à Barcelone. » En résumé, du point de vue chinois, l'Occident est donc hypocrite et il ferait mieux de balayer devant sa porte. Il ne supporte pas chez lui les soulèvements qu'il célèbre à Hong Kong. Ça prouve simplement que la priorité de l'Ouest, c'est de déstabiliser la Chine.
Mais voilà qui est un peu quand même de la propagande chinoise.
Alors c'est vrai, mais tout n'est pas faux là-dedans. Il faut aussi écouter cet argumentaire dans ce qu'il a de dérangeant. Et puis il y a un autre aspect, c'est que cette situation de tension sociale généralisée dans plusieurs pays donne des arguments à Pékin, nourrit la conviction chinoise sur l'état du monde, à savoir le capitalisme libéral et la démocratie pluraliste sont à bout de souffle, en fin de course. De ce point de vue, donc, le Chili, justement, dont vous parliez à l'instant, c'est un cas d'école qui donne de l'eau au moulin du raisonnement chinois. Voilà donc un pays, Patricio Guzman le disait à l'instant, qui depuis plusieurs décennies est un laboratoire néolibéral avec privatisation à outrance et au bout du compte, une poignée d'ultra-riches, trop d'inégalités, une révolte sociale. Pour Pékin, le modèle occidental est périmé et Donald Trump ou Boris Johnson en sont les derniers soubresauts, le crépuscule. Xi Jinping assume, revendique un autre modèle, un régime fort, autoritaire, avec suffisamment d'argent pour assurer de la paix sociale. Les libertés formelles, vous savez, chères à l'Occident, attendront, les peuples préfèrent de l'autorité, de l'efficacité. Alors oui, évidemment, c'est en partie de la propagande. Il s'agit de mieux justifier ce qui se passe en Chine, la surveillance généralisée de la population, les arrestations d'opposants, l'absence de liberté de la presse, la répression des minorités ethniques. Mais il y a aussi là-dedans une conviction ancrée sur la fin d'un cycle au niveau mondial, le début d'un autre, la domination des régimes autoritaires.
Et on imagine que tout ce discours pourrait aussi servir de prétexte au pouvoir chinois pour réprimer Hong Kong.
C'est certain et on ne peut pas s'empêcher de penser que la répression se rapproche. Les jours de Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, semblent compter. Les manifestants ne la supportent plus. Le pouvoir chinois pas davantage. Il va donc sans doute finir par la lâcher et passer à la manière forte. Tout simplement parce que le pouvoir chinois, dans son logiciel intime, ne peut pas s'autoriser à paraître faible. La contestation est inacceptable par essence, sans compter qu'elle peut finir par s'étendre sur d'autres régions en Chine, en particulier Canton tout proche. Alors bien sûr, si la Chine finit par réprimer violemment la contestation à Hong Kong, son image sera écornée, elle y perdra en termes de soft power. Mais elle n'est pas la seule, donc c'est moins embêtant. Les images des gouvernements occidentaux sont tout autant écornées, des États-Unis de Trump au Chili de Piñera, en passant par la Catalogne, le Brexit, les Gilets jaunes. CQFD, ces tensions sociales qui éclatent un peu partout dans le monde, font l'affaire de Pékin.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve évidemment demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Pierre Veil et puis le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous. Continuez à faire ce que vous faites, on s'occupe du reste.